Voilà, donc dernière intervention qui sera une intervention donc à deux voix, deux personnes du ministère des Armées. Donc Sébastien Montbal qui est conseiller du Comcyber, donc qui est le commandant de la cyberdéfense, créé cette année. Donc à l'état-major des armées, il a été précédemment directeur des opérations d'Orange Cyberdéfense, directeur de la sécurité opérationnelle groupe Areva. Il avait déjà fait un rétex d'ailleurs sur ce sujet lors des Césars 2013 pour ceux qui étaient là. Il est également chargé de mission à la SNCF sur l'antifraude et les incidents numériques depuis 4 ans. Pendant 4 ans, pardon. Et depuis 13 ans, il dirige également le département système réseau sécurité de l'EPITA. Il enseigne la cybersécurité dans de nombreux cursus. Donc, il sera accompagné de Gilles Lyonnais, à ma droite, qui est chef de département au sein de la division SSI 5 de DGAMI. Il y a maintenant 5 divisions à DGAMI, pour ceux qui n'en avaient pas suivi. Donc après 6 ans en tant qu'expert télécom sur de nombreux programmes d'armement, il a occupé les fonctions de chef de projet pour différents projets cyber, ayant trait à la connaissance de la menace. À la tête de son département depuis 2016, il a notamment en charge la responsabilité de conduire des tests d'intrusion sur les SI du ministère des Armées. Voilà, il va nous présenter dans les grandes lignes comment le ministère s'est adapté et mène désormais des entraînements cyber au travers d'exercices tels que ça a pu vous être présenté tout à l'heure, Red Team vs Blue Team. Voilà, je laisse la parole.
Bonjour à tous. On va vous parler avec Gilles effectivement de cette notion pour nous de Red Team, Blue Team et comment finalement on l'a déclinée. On va partir un peu du concept et puis on rentrera un peu concrètement dans notre retour d'expérience sur le sujet, qui est un retour totalement empirique, bien sûr. Petite latence. Hop, c'est en dessous. Alors, première question qu'on pourrait se demander, c'est finalement pourquoi monter un exercice Red Team versus Blue Team? Le ministère a déjà tout un tas, on pourrait déjà se prendre une approche sur la gestion des risques, le ministère a tout un tas de démarches. Je dirais qu'on a quelque part le risque imaginé, qu'est-ce qu'on pourrait anticiper dans l'analyse de risque, avec toutes les démarches d'homologation qui peuvent en résulter. On a le risque évité. Finalement, c'est quand on se fait un peu peur sur les audits, les thèses d'intrusion, voire l'anticipation. C'est quand d'autres structures pour lesquelles effectivement on a soit des échanges, soit pour lesquelles on peut faire une veille, ont effectivement subi des cyberattaques. Et puis le risque subi, c'est-à-dire les incidents et les crises que peut être amené à gérer le ministère. Tout ceci va nous aider finalement à réduire ce risque. Mais quand bien même on ferait toute cette réduction de gestion de risque, en fait, on peut quand même se poser la question, et si le risque se matérialisait? C'est-à-dire si ce risque résiduel, finalement, se réalisait. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Et c'est là que rentre finalement toute la lutte informatique défensive, et qui peut paraître finalement parfois théorique, en se disant oui, on est prêt, pour autant, est-ce que c'est vraiment le cas? Et puis dans toute cette lutte informatique défensive, il y a la gestion de l'impact. C'est-à-dire qu'effectivement, derrière, les systèmes supportent des missions, supportent des objectifs opérationnels. Est-on capable de gérer cet impact, donc la côté dimension un peu gestion de crise? Est-ce qu'on peut encore réduire le risque? Est-ce qu'on peut réduire finalement l'impact, la traiter? À quel niveau de maturité de préparationnel, je dirais, avons nous atteint pour y faire face? C'est une question tout à fait légitime que peut avoir pour le coup un officier général. Comment peut-on concrétiser pour convaincre finalement d'un risque systémique? Alors ça, c'est une question où souvent on a une vision un petit peu par photo. Quand on fait des homologations d'un système, quand on fait des analyses de risque ou de la sécurité, on voit des systèmes, sauf que ces systèmes aujourd'hui sont forcément interconnectés, parfois plus profondément avec des relations de confiance de système. À partir de là, on a ce qu'on appelle le risque systémique, un peu l'effet domino. L'idée, c'est comment mesurer finalement un ensemble de systèmes, un système de systèmes, et de voir où on en est en termes de niveau de risque. Au passage, on pourrait se poser, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres méthodes pour identifier de nouveaux risques? Une autre question qui peut venir souvent aussi d'un commandement, c'est, on est prêt, mais est-on prêt face à cette menace qui nous fait peur? Une menace étatique, une menace criminelle, autre, par rapport à un théâtre, par rapport à des scénarios, par rapport à un contexte géopolitique. L'idée, c'est peut-être effectivement de mimer cette menace et de voir effectivement est-ce qu'on serait prêt à pouvoir la détecter, la chasser, pourquoi pas l'entraver, reconquérir le système, s'il a été un peu plus loin qu'on avait prévu, le reconstruire, et puis pourquoi pas répondre à cette agression. Et donc finalement, on voit bien qu'on a un peu l'ensemble des process qui rentrent un petit peu en compte dans tout ça, pour passer de la cyberprotection à la lutte informatique défensive, donc l'anticipation, de la planification, où on prépare des plans, des capacités de réponse en cas de crise, évidemment, de chasse, de reconstruction. Puis à un moment donné, il faut mettre tout ça un petit peu en musique, ça va être la préparation opérationnelle, jusqu'à, je dirais, la réalité des prix, l'exercice. Alors comment on va monter un exercice ? Au ministère, les exercices, il y a tout un tas de doctrines. Les exercices, on en fait, je dirais, beaucoup dans tous les thèmes. Donc il y a toute une doctrine de montage d'exercices interarmés. Il y a tout un langage aussi et des concepts qui sont, je dirais, aussi partagés avec les alliés, dans le cadre typiquement des exercices de type OTAN. Et donc finalement, c'est comment on le décline au monde cyber. Comme toute opération, au départ, ça commence par de l'anticipation, ça commence par du renseignement. Donc on va se monter notre propre opération contre nous, finalement, avec un processus de ciblage, un processus de renseignement. On va identifier les effets redoutés sur la situation amie, donc notre propre système. On va se renseigner et puis un petit peu aussi anticiper des modes d'action ennemis, parce que je vous l'ai dit, peut-être que tout à l'heure, on voudra mimer un certain nombre d'acteurs pour arriver à avoir un niveau de menace particulier. Et donc on va avoir tout finalement ces mécanismes et ces processus que l'on fait en amont d'une opération. Ensuite, c'est quand même un exercice, il va falloir définir les objectifs d'entraînement, qu'est-ce qu'on veut voir, donc quelle est finalement l'audience que l'on veut entraîner, quels sont les objectifs que l'on veut atteindre, sur quoi on veut les sensibiliser, est-ce qu'on veut tester des procédures particulières, est-ce qu'on veut tester des capacités de réaction, d'avoir des valeurs très précises, typiquement des chronomètres face à une attaque particulière. Est-ce qu'on veut tester des chaînes de notification ? On parlait tout à l'heure, dans les autres présentations, des notifications qu'il peut y avoir à l'extérieur pour les données de santé, les données personnelles, compromission du secret de la défense. Bon, il y a tout un tas de cas où on peut être amené à partager ça avec des acteurs tierces. Donc quels sont les objectifs d'entraînement qu'on voulait faire sur, finalement, les bleus ? Mais ça peut être aussi un entraînement sur la partie rouge. Et ensuite, on va rentrer dans un process de planification classique. Donc on va définir le scénario que l'on veut, les faits à obtenir, on va parler en termes d'effets, avec sur l'appui évidemment du processus de ciblage, on va définir des idées de manœuvre, en gros comment on aimerait pouvoir réaliser les effets que l'on voudrait générer. On va définir des conditions initiales, est-ce qu'on part, sur Internet, est-ce qu'on part depuis un poste compromis sur le réseau, est-ce que finalement on a une connaissance zéro du système ou pas. On va définir une menace. Est-ce qu'on veut un groupe particulier, un APT XXX, ou finalement une menace générique ? On va définir donc bien sûr le renseignement disponible, et puis le périmètre. On ne va pas forcément pouvoir non plus jouer sur la totalité, bien que, comme c'était bien souligné tout à l'heure, la taille du périmètre va aussi donner la qualité de l'entraînement in fine. Après, on va définir préparer le terrain d'entraînement. Globalement, il y a deux cas. Soit c'est un terrain qui est complètement construit pour l'objectif, on va parler de cyber range. Donc là, ça se fait beaucoup, typiquement, quand on fait des exercices avec des alliés en internationaux, type Lockshield, par exemple, avec l'OTAN, ou des exercices en bilatéral. Ou alors, on va faire des exercices sur des systèmes en propre. Et là, on va parler de live exercice, qui sont donc les systèmes en opération et pour lesquels, effectivement, on va vouloir tester un petit peu, je dirais, aussi la réalité des prix. Ensuite, on va définir l'organisation de l'exercice. Donc, dans un processus de planification militaire, il y a tout un tas d'étapes. On va commencer par une séance de planification initiale, dans laquelle on va se définir les grands axes que l'on veut obtenir, en termes d'objectifs d'entraînement. On a déjà fait le processus d'anticipation, bien sûr. On va définir les scénarios, les effets, donc avec finalement des gens du côté bleu, mais qui ne seront pas des joueurs, des gens du côté rouge, pour pouvoir effectivement voir qu'est-ce que l'on peut construire. Qu'est-ce qu'on raisonnablement on peut faire. Et puis petit à petit, on va avancer dans finalement la construction de l'exercice jusqu'à une conférence de planification finale où on se dit ça y est, tout est clair. Il n'y a plus qu'à faire finalement le début de l'exercice. Toutes les conditions de logistique, le cadre de fonctionnement de l'exercice sont clairs, les processus sont faits, les acteurs sont identifiés et tout est prêt à démarrer. Pendant ce processus, il y a quelques points clés que je voudrais souligner. Le premier, c'est le processus de déconfliction. Comme on l'a dit tout à l'heure, pour que ça soit bien pertinent, un exercice de Red Team, Blue Team, il faut que ça soit sur une longue durée. Et même si c'est sur une courte durée, malheureusement, des fois, vous n'êtes pas tout seul à vouloir attaquer les systèmes. Et donc, quand vous avez votre équipe bleue qui arrive vers vous en criant « Youpi, j'ai trouvé tel artefact d'une attaque », c'est bien de vite faire vérifier quand même que si c'est bien de votre côté, côté rouge, que ça a été fait, ou si malheureusement, ce n'était pas une autre affaire. Donc, il est important d'avoir un processus de déconfliction, côté bleu, pour dire « On est bien dans le cadre de l'exercice. Non, malheureusement, là, c'est un vrai incident. » La deuxième partie, c'est les règles de SecOps. De sécurité opérationnelle par rapport à l'exercice, comment on communique, comment on se met, je dirais, en interaction, du rouge vers la cellule d'animation, je vais revenir après sur les couleurs, du rouge vers la cellule d'animation, du bleu vers effectivement la cellule d'animation, comment tout ça échange quand on trouve des vulnérabilités. Donc il faut bien définir finalement toutes les règles pendant la phase d'exercice et, je dirais, éventuellement a posteriori. Et puis un point particulier, ce sont les règles d'engagement. Qu'est-ce qu'on autorise de faire ? Quand on fait une opération, vous avez des règles d'engagement disant « ça, je vous autorise, je dirais, à mener telle ou telle action pour les bleus, telle ou telle action pour les rouges », qui sont des conditions d'entraînement, je dirais, d'opération normale. En théorie, on dit bien « on fait la guerre comme on s'entraîne et on s'entraîne comme on fait la guerre ». Bon, mais dans le cadre d'un exercice, il y a des fois où vous avez des variables sur lesquelles vous pourrez difficilement jouer en conduite. Exemple, si vous avez acheté, par exemple, qu'un seul VPS sur Internet pour mener un contrôle-commande de l'action rouge, si les bleus le détectent et veulent blacklister l'IP, ça va peut-être mettre fin un peu vite, par exemple, à l'exercice. Donc il faut avoir des règles d'engagement un peu précises, ou des fois vous allez dire, ok, vous pouvez engager, vous notifiez la cellule d'animation, et puis on va voir comment en conduite on peut ou pas autoriser l'action. En tout cas, on prend note que vous avez eu la volonté de mettre en place cette action, voire peut-être que vous l'avez mise en place. Donc ça permet d'adapter pendant faire un peu l'arbitre, quelque part, entre la phase d'exercice rouge et la vision que peuvent avoir les bleus. Après, il y a le choix, quelque part, de la constitution des équipes. Alors, dans les exercices un peu internationaux, on trouve plusieurs couleurs. Bon, le bleu, c'est les équipes défendantes, le rouge, c'est les équipes attaquantes, la cellule d'animation, c'est l'équipe blanche, qui aura une vision un peu haute, qui éventuellement, souvent, générera aussi, quelque part, des inputs complémentaires pendant la phase d'exercice. Par exemple, un inject média, ça peut être des phases un peu papier, hein, pas forcément générées pour de vrai. Un impact médiatique, ça peut être une question juridique, ça permet effectivement aussi d'entraîner, pendant tel un chef quelque part qui poserait des questions à ses équipes en pleine opération, ça permet effectivement derrière de les animer et aussi de parfois de leur faire poser un peu le stylo et de construire une quelque part aussi la suite de la démarche. Donc nécessairement, quand il y a des phishing, etc., ça peut arriver et c'est effectivement le clic qu'il peut y avoir derrière. Et puis il y a l'équipe green, là c'est typiquement l'équipe de support, l'équipe informatique, qui connaît son système au quotidien, et qui, globalement, je dirais, va aussi pour vous être le support, parce qu'il arrive que pendant la phase d'exercice, il peut y avoir des choses qui n'ont pas été bien paramétrées, alors surtout quand vous faites un exercice sur un cyber range, c'est-à-dire sur un entraînement qui est complètement virtuel et constitué pour l'occasion, bah, comme il ne tourne pas tous les jours, forcément il y a quand même parfois pas mal de choses à régler en conduite, pour faire en sorte que la plateforme soit correcte et que l'exercice se déroule. Donc il peut y avoir tout un tas d'équipes, ce qui veut dire par là que le manning d'un exercice comme ça peut vite monter en taille, hein, en termes de personnes, peut vite monter de manière assez importante. Et donc sur des gros exercices, notamment internationaux, on peut se retrouver avec plusieurs centaines d'acteurs cumulés pour pouvoir monter ce type d'exercice. Alors très rapidement, quelques points sur lesquels je voudrais juste souligner en termes de rétex avant de passer la main à Gilles. Le premier, c'est finalement la durée de ce type d'exercice. Si vous voulez vous entraîner face à un APT, obligatoirement, ça va être plusieurs mois. Au ministère, on a la chance de pouvoir le faire quelque part. Je ne suis pas certain que dans une société civile, ça soit possible d'engager des ressources sur une telle durée. Mais en tout cas, quand on va faire un entraînement face à un APT, ben voilà, il n'y a pas de secret. Hein. En face, ils font pareil. Il y a une durée qui va être longue de phase de renseignement pour les rouges, pour bien, je dirais, décliner la manœuvre quelque part, l'idée de manœuvre qui avait été prévue, de mettre en place effectivement, éventuellement, des éléments techniques, je dirais, l'armement numérique, comme ça avait été traduit tout à l'heure. Puis après, effectivement, de mener en place ces opérations. Puis même une fois qu'on a pris pied dans le système en face, il y a une phase qui est très longue aussi, de comprendre comment le système en face fonctionne, parce que vous n'avez pas forcément tout le détail, pour aller plus loin et progresser dans le système jusqu'à l'atteinte des objectifs. Et donc ça, nécessairement, ça va prendre beaucoup de temps. Et c'est plutôt une bonne chose pour les bleus, parce que ça évite de se dire, bon alors en ce moment j'ai un exercice sur une semaine, donc je me concentre que sur ça, et finalement, c'est un peu dévoyer l'exercice. Là, ça les oblige à avoir quelque part aussi, pendant la durée normale de leur travail, potentiellement effectivement d'avoir une phase de détection qui va arriver peut-être un mois après le début de l'exercice, peut-être plus parfois. Et donc, finalement, de ne pas avoir une vigilance accrue pendant la phase d'exercice. L'entraînement face à un DDoS, pour tout ce qui va être effectivement ce type de manip, là, quelques jours, ça suffit largement. Il n'est pas forcément nécessaire d'avoir une planification qui soit sur une période d'exercice longue. En termes de règles d'engagement, donc là, ça peut être intéressant vraiment de bien les spécifier pour entraîner face à des modes d'action ennemis particuliers. Tout le monde n'a pas effectivement les mêmes règles d'engagement, donc c'est bien effectivement de les détailler, et puis aussi de bien détailler sur la partie bleue, parce que voilà, on est quand même régi par tout un tas de droits, notamment le droit des conflits armés. Et donc il faut effectivement que tout ça soit bien détaillé en amont. Et puis le deuxième point pour les rouges, c'est bien de spécifier finalement, j'ai envie de dire, presque tout type d'action. Faut pas se limiter, ça c'est un point clé. Alors oui, faut pas hésiter à utiliser le social engineering, faut pas utiliser le détournement des moyens de défense des bleus, hein, pourquoi pas les prendre, les retourner contre les bleus. C'est extrêmement pratique pour cartographier, pour là aussi les rendre aveugles, pourquoi pas aussi finalement atteindre l'objectif, hein. Souvent c'est des outils qui sont avec beaucoup de privilèges et beaucoup de capacités. Rares sont les systèmes qui segmentent bien le système à protéger et le système de protection. Faut pas utiliser non plus, ne pas utiliser la tromperie, hein, ou toute autre technique qui permettrait effectivement d'arriver aux fins. Et puis technique de sabotage, ligne de service, les persistances, les backdoors. Bah oui, il faut laisser ça. Et quand on est sur un système en production, un système en opération, dans le cadre d'un LiveX, effectivement, faut vraiment tester. Ce qui veut dire que derrière, il faudra être capable de suivre, nettoyer et remettre en condition de sécurité. Et donc, dans la constitution de l'exercice, ça implique d'avoir des phases complémentaires. Et là, je vais rajouter une couleur d'ailleurs, c'est quand les bleus et les rouges se rassemblent à la fin, on parle de Purple Team, d'équipe violette, qui permet effectivement de reprendre une situation correcte, même sur un système en opération. Donc le choix du terrain, moi, clairement, je recommande avec le retour d'expérience qu'on a pu avoir, le LiveX, hein, c'est là où c'est quand même les vraies conditions réelles, et puis vous allez trouver forcément des vulnérabilités sur votre système, ce qui vous permettra de progresser et de ne pas avoir qu'un exercice où finalement vous allez progresser en compétences, mais vos systèmes ne seront pas plus résistants, ou meilleurs en détection et en réaction. Faut bien choisir, on parle des fois de trophées, les cibles, donc les effets à atteindre, ça c'est important. Faut pas hésiter à en donner plusieurs, de manière à ce qu'effectivement, en face, les équipes aient de quoi animer aussi les bleus et les mettre en condition réelle. Bien préparer en amont donc les événements que l'on veut et la planification pour les rouges. Là aussi, on parlait de déconfliction si vous avez une attaque pendant cette longue durée. Mais bon, les systèmes d'information vivent aussi pendant cette longue durée, donc il peut se passer plein de choses, des mises en production, des opérations un peu importantes pour vous en termes de métier, en termes de mission. Pourquoi pas des opérations même de communication, c'est peut-être pas la meilleure période pour quelque part exposer votre système à un stress, donc il peut y avoir des pauses opérationnelles, et ça, faut les anticiper en amont, c'est important. Et puis donc, je terminerai sur le choix des ressources humaines, parce que de toute façon, en cyber, quand on n'a pas la ressource humaine, on peut imaginer plein de choses, mais on n'est pas capable de les créer, de le réaliser. Donc, faut pas sous-estimer pour le coup le rôle de deux équipes que sont l'équipe d'animation et l'équipe de préparation d'un cyber range. Il y a un énorme travail en amont qui, en termes de jour homme, peut être aussi conséquent finalement que la durée de l'exercice. Donc, faut quand même avoir cette un peu ce ratio. Et donc, le choix quelque part du dimensionnement est important. Et ce dimensionnement doit se continuer, je disais, dans la phase d'assainissement. C'est-à-dire que l'après-exercice, ça se termine pas en disant « bon bah c'est fini, les rouges ont atteint le trophée » ou « les bleus ont repoussé les rouges ». Non, l'exercice, c'est quand effectivement tout est revenu en état de condition opérationnel pour supporter les missions. Et ça, c'est la phase d'assainissement, où il y aura un renforcement peut-être immédiat, c'est-à-dire des vulnérabilités critiques qu'il faut absolument corriger tout de suite. Mais ça peut être aussi la partie assainissement, si vous avez laissé des backdoors, des outils pour effectivement aller un peu plus loin, des comptes que vous avez capturés pour lesquels il faut évidemment remettre en condition de sécurité, des comptes que vous avez créés, etc. etc. Donc il y a tout ce travail derrière, post-exercice, qui est nécessaire aussi à réaliser, donc il ne faut pas l'oublier en termes de ressources humaines.
Bien, je vais donc illustrer par l'exemple d'un petit exercice ce que peut être l'activité d'une rep team dans ce genre d'exercice. occasion aussi de montrer les calages qu'on peut avoir parfois entre les idées des idées reçues sur ce que peut être le test d'intrusion et ce qu'on peut être amené à faire dans ce type d'exercice. Donc, dans ce cas précis, notre objectif était un vol de données à caractère sensible qui serait, pour un attaquant réel, un préalable à une opération de déstabilisation ou d'influence que notre commanditaire souhaitait voir évaluer. La cible était connue en amont, une application web sur l'intranet d'une enclave. On était là dans le cadre d'un petit système d'information peu connecté, pas connecté au reste des systèmes du ministère. Et la position de laquelle on partait, c'était la plus extérieure possible, l'Internet. Donc tout d'abord, on cherche à rentrer, c'est logiquement. Donc avant même ça, il est nécessaire de déterminer la surface exposée par ce système sur l'Internet. Alors DNS, WIS, Google vont nous donner des informations. Informations qu'il faut bien sûr faire vérifier, enfin demander à l'équipe d'animation s'il s'agit bien du système qu'on pense, puisqu'il peut y avoir des IP qui ont été réattribuées ou autres. Et là on voit l'importance de la coordination en boucle courte avec l'équipe d'animation. Bien sûr, éviter d'attaquer autre chose que ce qu'on est censé faire. Ensuite, là, il s'est avéré que ce système exposait trop peu de choses sur Internet pour qu'on puisse y rentrer par les services exposés. Donc, on s'en remet à deux possibilités. L'accès physique. Bon, rentrer sur un site militaire, on n'est pas assez sportif pour courir plus vite que les chiens. Donc, plus confortable, on a préféré le phishing. Ça se fait depuis les bureaux. Et après, la recette est assez connue. Hein, trouver des adresses cibles. Toute entité expose pour des besoins métiers irréductibles, des adresses email pour le service achat, pour la communication, pour les RH, autant de choses qui sont absolument indispensables. On peut en trouver aussi parfois par négligence. Dans tout ça, Google est votre ami et donnera un certain nombre d'informations. Il s'agit ensuite d'amener un mail sur lequel l'utilisateur aura envie de cliquer. Donc là, on en a été question déjà tout à l'heure. Hein, exploiter des préoccupations universelles qui intéressent tout le monde sur sa carrière, sur son augmentation, sur le pouvoir d'achat, sur les retraites, sur des candidatures, sur des bons cadeaux, par exemple, permettent assez de maximiser le taux de clic, d'autant plus qu'on va chercher dans ces phases-là à reprendre des chartes. Là, on en trouvera assez facilement des chartes graphiques sur Internet pour usurper des sites légitimes et crédibiliser encore plus en déposant des noms de domaine avec des petites fautes d'orthographe volontaires qui feront que l'utilisateur sera beaucoup moins suspicieux. Reste à mettre dedans l'outil de post-exploitation, alors on en a plusieurs, hein, tailleur, metteur prêteur, Cobalt Strike, enfin peu importe, qui va nous permettre de piloter à distance ces machines une fois compromis, avec un choix à faire sur le degré d'intelligence embarqué, entre balancer un exe, dont on se doute qu'il sera détecté et par l'antivirus et par l'utilisateur, ou avoir quelque chose de plus étagé qui téléchargera progressivement le code qui nous intéresse. Et de toute façon, dans tous ces cas-là, une contrainte forte, avoir un canal de communication avec notre commande de contrôle qui soit sécurisé, donc avec un chiffrement dans lequel on a confiance, puisqu'il ne s'agit pas d'exposer les données du SI testé, hein, naturellement, et qui soit aussi le plus banal, entre guillemets, vis-à-vis, pour une question de furtivité, vis-à-vis des pare-feux et des comportements légitimes de l'utilisateur. Donc en l'occurrence, utiliser un canal HTTP qui communique avec un VPS qu'on a loué sur l'Internet, passe très bien le pare-feu et nous permet de contrôler la machine. L'efficacité de cette méthode reste somme toute assez faible, mais nous permet, dans certains cas, d'atteindre 30%, un taux de réponse de 30%. Pardon. Étape suivante, on est dans le SI, on en contrôle ici un petit nombre de machines. On doit savoir, là la technique consiste à essayer de trouver l'administrateur du site web, de l'applicatif web sur l'intranet qui nous intéresse. Donc là, assez facilement, on va regarder les documents, l'intranet, le moteur de recherche, l'annuaire, tout ce qui est, tout le SI utilisé légitimement par les utilisateurs. Et puis, ce qui va nous sortir enfin, de l'information ici, c'est tout simplement que le contact, l'administrateur, est indiqué sur la page web. Évidemment, pour une raison de commodité, comme tout un chacun, on va d'abord chercher sur la page web concernée qui l'administre. Et ici, ça nous donne la réponse de quelle machine, quelle personne on doit compromettre. On va donc agir de manière opportuniste, hein, c'est la principale caractéristique d'un attaquant, en tentant notre chance, tout simplement récupérer les identifiants d'administration dans la machine, avec des outils type Mimikatz par exemple, identifiant ou empreinte, qu'on va rejouer de manière opportuniste. On rejoue sur le poste cible, bon, ça marche pas. En revanche, dans ce cas précis, on a rejoué sur le contrôleur de domaine, et ça marche. Et donc, une fois sur le contrôleur de domaine, même chose, on regarde les empreintes et les identifiants, et on a celui du poste cible sur lequel on va pouvoir se connecter. Donc, dans ce cas précis, ce qu'on voit bien, c'est que c'est un compte oublié sur le contrôleur de domaine qui a été le maillon faible qu'on a pu exploiter, et ce qui montre un décalage là, avec une idée reçue qu'on peut parfois avoir, qu'un attaquant va avoir des phases visibles pour la défense de scan, d'exploitation de vulnérabilité, qui vont envoyer des paquets à grande échelle, qui vont balayer un ensemble de machines, un ensemble de services, qui donneront une prise au défenseur pour le détecter. On voit bien dans ce cas précis que ce que va avant tout chercher l'attaquant, celui qu'on va, on va simuler dans, dans ce type de prestation, c'est d'être le plus discret possible, d'avoir un usage le plus légitime du système pour passer sous les radars et puis tout simplement pour se simplifier la vie. Une fois ça fait, on dispose donc du poste de l'administrateur. Reste à récupérer ces identifiants sur l'application cible pour ensuite aller moissonner les informations qui nous intéressent. Et ce qui se passe ici, c'est que les mots de passe de connexion à l'application sont dans le navigateur, comme elles le sont dans tous nos navigateurs modernes, mais ne sont pas protégés par un mot de passe maître, comme c'est désormais possible dans tous les navigateurs modernes. Donc une fois ça fait, l'objectif est atteint. On voit là, ici, que bien que les mots de passe soient plus complexes et mieux protégés, ce qui est un fait, c'est vrai qu'il y a toujours plus de solutions, qu'il y a toujours une plus grande maturité sur les mots de passe et la façon dont on les stocke, on va en trouver un petit peu partout. On va en trouver dans les navigateurs, avec le bien que j'ai montré ici. On va en trouver dans des outils d'administration, outils qui permettent à un administrateur réseau, par exemple, d'administrer un parc de routeurs, et qui donc va stocker des identifiants, de manière pas toujours très sûre, hein, il y a eu plusieurs publications sur le sujet par le passé. On va aussi en trouver dans des fichiers pense-bête. Un administrateur va vouloir s'aider en mettant dans son fichier Excel des mots de passe. C'est très pratique pour lui, mais pas que pour lui. Donc, au vu de tout ça, on pourrait penser que la Red Team exploite des tas de petites vulnérabilités faibles, mais qui, mises bout à bout, permettent souvent d'atteindre l'objectif. Souvent, peut-être, mais pas systématiquement. Et ce qui est important de bien voir derrière, c'est que l'entraînement de la défense, l'augmentation de la maturité de la défense va permettre de réduire la fenêtre d'opportunité que peut exploiter cet attaquant. Par exemple, dans le cas du phishing dont je parlais tout à l'heure, certes, il y aura souvent, quasiment toujours, quelqu'un pour cliquer, mais de par la maturité croissante, certains utilisateurs ne cliqueront pas, et comme ça a été cité hier, reporteront à leurs opérateurs, et très vite, on aura une réaction qui bloquera les voies d'entrée de l'attaquant. Autre exemple, dans le cas ici, une simple journalisation de l'accès à des comptes privilégiés permettra au plus vite de détecter ces signaux faibles et de fermer la porte à l'attaquant. Dans tous les cas, et c'est l'un des rétextes importants de notre activité ces dernières années sur le sujet, c'est que pour que ça fonctionne, pour que ça atteigne cet objectif d'augmenter la protection et la défense, hein, puisque c'est bien ça le but, il faut établir dans la durée une relation de confiance. Il est particulièrement important, et ça a été dit tout à l'heure aussi, d'avoir une communication constructive, que ce ne soit pas perçu comme une sanction, que ce ne soit pas un moyen de stigmatiser des administrateurs ou des utilisateurs, donc de toujours montrer les avancées qu'on peut avoir, comment ça contribue à améliorer le niveau, et puis de répéter régulièrement, si possible en tendant à une activité continue, ce genre de choses pour progressivement augmenter le niveau. Ce qui termine notre intervention, si vous avez des questions. Merci.